VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram, réunion ce matin à Abuja au Nigeria de hauts responsables militaires nigériens, tchadiens, nigériens, camerounais et béninois pour coordonner leur action contre les islamistes de la secte. Cette conférence des chefs d'état-major de la coalition anti-Boko Haram devrait précéder un sommet des chefs d'état des 5 pays alliés, a indiqué un communiqué des forces armées nigérianes. Selon l'AFP, l'Alliance contre le mouvement islamiste veut créer une nouvelle force multinationale plus homogène, soutenue par l'Union africaine, avec son quartier général à N'Djamena, au Tchad. 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud, les leaders africains se penchent non seulement sur les problèmes d'infrastructure, mais aussi la question du terrorisme et la vague de migrants africains en Méditerranée. Lionel Gaïma.
Ce sommet conserve pour thème celui du sommet de janvier 2015, à savoir l'année de l'autonomisation de la femme et du développement vers l'agenda 2063 en Afrique. Il est présidé par le Zimbabwe qui assure la présidence de l'Union africaine en 2015. Pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane, l'éradication de la pauvreté reste la priorité des participants.
It's going to take our will to...
Il faudra avoir la volonté de retrousser nos manches, de tirer sur nos chaussettes, en particulier les jeunes, et d'œuvrer à la prospérité du continent et à l'éradication totale de la pauvreté grâce à une transformation économique radicale.
Également au menu de ce 25e sommet de l'Union africaine, l'instabilité politique au Burundi et la guerre au Soudan du Sud, ainsi que la menace terroriste dans des pays tels que le Nigeria, la Somalie ou le Kenya, mais aussi le drame des migrants en Méditerranée.
Au Burundi, l'opposition rejette aujourd'hui le nouveau calendrier électoral proposé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et pose plusieurs conditions à l'organisation des prochains scrutins. C'est ce que rapporte l'AFP. Pour sa part, la CENI dit attendre la validation de son chronogramme électoral par le pouvoir, Eddie Sango.
Les chronogrammes proposés par la CENI fixent les législatives au 26 juin, suivies de la présidentielle le 15 juillet et des sénatoriales le 24 du même mois. Ces dates prennent en compte les recommandations des leaders d'Afrique de l'Est qui avaient suggéré un report des différents scrutins, a fait savoir Prosper Ntaoro-Amiye, un porte-parole de la commission électorale. Le conseiller présidentiel Nyami Tué a indiqué de son côté que le gouvernement discute des nouvelles dates avec les leaders de l'opposition et de la société civile et qu'une légère modification n'est pas à exclure. La présidentielle devait se tenir le 26 juin, mais la campagne électorale est au point mort depuis les violentes manifestations dans le pays et la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza.
Mali, une conférence économique pour la reconstruction du nord du pays aura lieu en septembre à Paris sous l'égide de l'OCDE. C'est ce qu'a annoncé hier Modibo Keïta, chef du gouvernement malien, lors de sa déclaration de politique générale au Parlement à Bamako. Plus de détails sur le discours avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Devant les élus de la nation, le Premier ministre a décortiqué les documents que les membres du gouvernement doivent traduire en actes concrets dans les jours et mois à venir. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de trois axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
Pendant une heure de temps, le Premier ministre a touché à tous les segments de la société malienne. Construction de routes, d'infrastructures de développement, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du Mali, avec en toile de fond la situation sur le terrain.
Nous sommes meurtris devant ces scènes d'agression multiples, qui hélas ne cessent de s'amplifier. Cela, nous le déplorons, et le gouvernement a la ferme détermination d'y mettre fin avec le concours de tous. Monsieur le Président, honorables députés, je mesure toute la place de la sécurité dans la construction, la consolidation de la paix et le développement. C'est dans ce sens que la réforme du secteur de la sécurité a commencé en août 2014 avec la création du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité sera poursuivie par la mise en place des organes du dit conseil et le recrutement de leur personnel.
Point de développement sans un assainissement du secteur financier, surtout que le Mali vient de connaître des cas de corruption dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires.
Pour l'assainissement des finances publiques, les mesures à prendre s'orienteront dans le sens de l'amélioration de la performance des régies financières, l'efficacité et la transparence dans les procédures de passation des marchés publics et de contrôle de la dépense publique seront renforcées.
La paix et la sécurité dans le nord du Mali, pour Kappa dans le Mali entier, ont une place de choix dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, pour qui il faut aller aujourd'hui vers une révision constitutionnelle afin d'aboutir à une bonne application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Maintenant, le bilan du sommet du G7 qui a pris fin hier en Allemagne. Les participants se sont engagés à adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat. Ils ont aussi pris des décisions sur des dossiers aussi divers que la crise en Ukraine et la lutte contre le terrorisme. Le compte rendu de notre envoyé spécial en Allemagne, Luis Ramirez, au micro de Timothée Donangmaï.
Premièrement, les mandataires du G7 ont accordé de continuer les sanctions contre la Russie à cause de ses actions à l'Ukraine. Il y a eu aussi un avertissement. Si les Russes ne respectent pas les accords de Minsk, retirer ses troupes et matériel de l'Ukraine, il y aura plus de mesures. Très important ici dans le sommet, c'est la question du terrorisme. Lundi, il y a eu une session où on a parlé de la situation des militants du groupe l'État islamique. Dans cette session, les présidents du Nigeria, la Tunisie, l'Irak ont participé comme invités. Un très grand sujet de discussion, c'est l'effort contre le Boko Haram en Nigeria. Le président Obama a eu une réunion bilatérale avec Haider al-Abadi. Ils ont parlé des avances très alarmantes de l'État islamique dans ce pays. Monsieur Obama dit qu'il y a quelque chose à faire. Premièrement, il a parlé de l'importance d'accélérer l'entraînement des troupes irakiens par les États-Unis et ses alliés.
Le président nigérian Muhammadu Buhari devait présenter une liste de requêtes au sommet. Qu'en est-il?
C'est une liste très longue, dominée par la question de la sécurité, la menace du Boko Haram. Les G7 ont accordé de travailler avec le Nigeria pour augmenter la coordination des efforts avec les forces américaines, combiné avec les forces nigériennes dans la lutte contre le terrorisme.
Quelle a été la place de l'Afrique à ce sommet du G7?
Très important, vraiment. Les mandataires de l'Éthiopie, le Libéria, le Sénégal, l'Union africaine sont aussi invités à participer au sommet. Le président Obama a dit que le G7 a accordé de continuer une initiative importante pour promouvoir la sécurité alimentaire dans les pays en développement. Ils ont l'intention de croître aussi la capacité des pays africains à développer ces sources d'énergie renouvelables. Ils se sont engagés à travailler avec 60 pays pour améliorer la santé et éviter les épidémies comme la récente épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans le communiqué final, ils ont parlé de l'importance de renforcer les institutions démocratiques et les opportunités économiques croissantes à travers l'Afrique, de l'établissement de la stabilité en Somalie. Ils ont réitéré que leur engagement continue à soutenir les partenaires africains à relever des défis de la sécurité, la gouvernance et la stabilité, notamment au Mali, le Soudan, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Nigeria et plus récemment Burundi.
Luis Ramirez, notre envoyé spécial au G7 en Allemagne. Concernant la lutte contre le groupe terroriste État islamique, le président Barack Obama a souligné hier la nécessité d'entraîner davantage de troupes irakiennes pour combattre les djihadistes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi est conscient de cet handicap, ajoute le chef de l'exécutif américain. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nous ne disposons pas encore d'une stratégie complète car elle exige des engagements de la part des Irakiens. Ainsi parlait M. Obama après le sommet du G7 en Allemagne, en marge duquel il a eu des entretiens avec le premier ministre Haider al-Abadi de l'Irak. Les pourparlers interviennent moins d'une semaine après que M. Abadi eut appelé à plus d'aide de la part des membres de la coalition dirigée par les États-Unis, qui depuis plus d'un an apporte un appui aérien à l'armée irakienne. Le premier ministre irakien a réitéré lundi sa demande. M. Obama a dit avoir demandé à M. Abadi de recruter davantage dans les tribus sunnites, en particulier dans la province d'Anbar, où l'État islamique a affiché une rapide et étonnante vigueur au mois de mai, au point de prendre Ramadi la capitale de la province. Sans un niveau de participation au plan local, la reconquête de ces zones sera difficile, a martelé le président Obama.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.